Je suis parti avec un collègue le matin. On partait faire un tour à la chasse tous les deux. Et en regardant, tac, on l'a vu ici. Il avait les jambes en haut et le reste du buste au fond, là. Voilà. Il était sur le ventre. Hein, il était sur le ventre. Et il avait ses bottes, il y en avait une qu'il avait encore au pied et pas l'autre.
Bonsoir, l'énigme du chasseur sans tête. 25 ans que cette histoire criminelle, qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, hante cette terre du Bourbonnais, toute proche de Vichy, en Auvergne. Une région de bois, de forêts et de ruisseaux, où la traque du gibier est ancestrale. À la Noël 1995, c'est dans ce décor champêtre qu'est découvert le corps décapité de Christophe Douard, 28 ans. Pas un accident, mais une exécution, en bonne et due forme, avec une mise en scène destiné à frapper les imaginations. Au regard de la personnalité de la victime, plusieurs pistes vont être passées au crible par les enquêteurs, mais une seule va retenir leur attention, celle d'un règlement de compte entre chasseurs. Reste à savoir pourquoi Christophe Douard aurait suscité un tel degré de haine au point de se voir infliger cette mort horrible. L'enquête n'a jamais permis de répondre à cette interrogation, un crime qui n'est toujours pas prescrit. Les langues finiront-elles enfin par se délié pour libérer la vérité, ou bien cette affaire demeurera-t-elle un parfait cold case? Question posée ce soir à nos invités.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'énigme du chasseur sans tête, une scène morbide qui surgit au pied de la montagne bourbonnaise à la Noël 1995. Tout a été orchestré pour retenir l'attention et semer l'effroi. Ce 25 décembre 1995, aux alentours de 9h du matin, deux jeunes chasseurs roulent tranquillement sur la Nationale 121, près de la petite localité de Bussé, 932 habitants. Un matin de Noël, il n'y a pas âme qui vive dans ce coin de campagne. Un peu de neige recouvre les bas-côtés de la route. Il fait tout juste 2 ou 3 degrés. Les deux hommes sont venus reconnaître un coin où ils pourraient pister du gibier. L'équipage s'arrête dans un virage à l'entrée d'un champ, un passage de chevreuils et de sangliers. À peine est-il sorti de la voiture que l'un des chasseurs est attiré par une masse informe dans le fossé. Il s'approche avec appréhension, pressentant le pire. Il s'agit bien d'un corps humain qui repose ventre contre terre en tenue de chasse, celui d'un homme qui n'a pas de tête. Il a été décapité et à la place de la tête, à hauteur du cou tranché, l'assassin a déposé l'une des bottes de la victime, comme s'il avait tenu à l'humilier, même après sa mort. Le corps est rapidement identifié, il s'agit de Christophe Douard, 28 ans, marié, père d'un garçon de 9 ans, employé aux abattoirs de Vichy et chasseur émérite. Cet habitant de Cussé avait disparu de son domicile le 16 décembre dans la soirée. Deux jours après la découverte du corps, l'autopsie indique que Christophe Douard a été tué dans les heures suivant le départ de son domicile, le 16 décembre vers 23h30. Il a été décapité post-mortem après avoir été sans doute abattu d'une balle dans la tête. C'est manifestement pour éviter toute identification de munitions ou de projectiles que cette partie du corps a été découpée à l'aide d'un couteau de boucherie ou de chasse. C'est une main expérimentée qui a sévi, un professionnel. La découpe des cervicales est nette, pas d'autres blessures constatées. Le légiste exclut une strangulation car l'analyse des organes ne montre pas de signes d'asphyxie. Détail étonnant, le cadavre apparaît vidé, totalement de son sang, comme si après la mort il avait été suspendu par les pieds, comme on peut le faire pour du gros gibier. Le corps pourrait avoir séjourné dans une chambre froide. Sur le terrain, les gendarmes qui ont extrait la dépouille du fossé ont été frappés par son extrême légèreté. Reste à savoir désormais qui est derrière cette épouvantable mise en scène. On va essayer effectivement de savoir qui est derrière cette mise en scène. Et on va prendre tout de suite en ligne Françoise Douard. Bonsoir Françoise Douard.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Vous êtes la mère de Christophe Douard. Merci d'avoir accepté de nous parler ce soir de votre fils et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'homme il était?
Bon, disons que c'était un très très bon gamin, comme son frère. Il n'y a pas de problème. Ils étaient très 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 unis. Christophe, qui était au départ tout à fait équilibré, il s'est marié, il avait 19 ans. Il avait un petit garçon qu'il adorait, sa femme aussi. Ce n'était pas ce qu'on appelle dans le domaine de la chasse, un viandard. Il ne chassait pas pour le gibier. Lui, il chassait pour faire chasser ses chiennes. Il n'avait que des chiennes. Mmh. Mais c'était pas du tout un violent, hein, la chasse. Hein.
Et vous êtes d'une famille de chasseurs, c'est une tradition chez vous?
Oui, il y a toujours eu des chasseurs, oui. C'était de la, ce qu'on appelle de la chasse de plaine, de la petite chasse. Christophe, il était très, très féru, lui, de ce qu'on appelle la chasse au bois, c'est-à-dire le gros gibier, le chevreuil, le sanglier, ce qui l'empêchait pas de côtoyer. Il avait des amis partout, hein, dans tous les clubs de chasse. Hein.
Vous vous souvenez, évidemment, Françoise Douard, de cette découverte dans ce coin de campagne?
Je me souviens très bien de ce qui s'est passé. Hein. Pendant 8 jours, je l'ai cherché, et c'est le jour de Noël qu'on a retrouvé Christophe dans un chemin, une sente, qui était un passage de sanglier, que les gars de la chasse avaient fait la veille et qu'ils n'avaient rien trouvé. Et le jour de Noël, ils refont un trou, et c'est ses copains qui l'ont trouvé sans tête, avec une botte à la place de la tête. Et voilà comment ça s'est passé.
J'ai parlé de l'autopsie, Madame Douard. Vous en savez un peu plus, vous, dans le dossier, ce qui figure dans le dossier?
On m'a dit que, de toute manière, il avait des marques aux chevilles, qu'il avait été certainement pendu dans une chambre froide, parce qu'il n'avait pas une seule goutte de sang dans le corps. Même le foie était sec. Enfin, était sec, je me comprends. Et pourtant, le foie, c'est une masse de sang. Hein. Il avait plus aucun sang. Donc, on m'a dit, il est resté au moins dans une chambre froide 8 jours. Oui. Et c'est le jour de Noël qu'on a décidé, comme il y a peut-être un peu plus de passage ce jour-là, qu'on a décidé et de le mettre à un endroit où il serait trouvé immédiatement. Sans ça, il aurait peut-être été mangé par des animaux.
Maître Juliette Chapelle, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Et vous êtes dans le studio de l'heure du crime. Je voudrais un mot là-dessus, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une mise en scène qui est faite pour montrer quelque chose, assez glaçante.
Alors, c'est une mise en scène qui est très glaçante et il y a clairement un message derrière, c'est que c'est pas un accident, c'est quelque chose qui était c'est un crime qui était prémédité, donc on parle d'assassinat et il y a clairement un message à faire passer à la famille de Christophe Douard, et c'est pour ça que les enquêteurs sont partis sur l'hypothèse la plus crédible et la plus probable qui est d'un règlement de compte entre chasseurs.
C'est ça, on veut impressionner quelqu'un. Vous êtes l'avocat d'Olivier Douard, qui est avec nous d'ailleurs en ligne. Olivier Douard, vous êtes le frère de Christophe. Quelques mots sur Christophe, pour compléter ce portrait. Quand vous apprenez cette mort brutale, quelle est votre réaction, Olivier Douard?
Bonjour, bonsoir à tous.
Bonsoir, Olivier Douard.
Je suis médusé, en fait. Ma vie a complètement changé à partir du moment du 25 décembre 1995.
Ouais.
C'était ma vie, elle était comme ça et elle est devenue complètement autrement à partir de ce moment-là. Parce qu'on a passé quand même 8 jours à le chercher.
Bien
et
sûr.
On a passé une énergie pas possible avec l'angoisse qui montait et avec l'issue fatale qu'on savait parfaitement comment ça allait se terminer à partir du moment où il avait disparu déjà.
Mais à aucun moment vous n'auriez imaginé une scène de cette cruauté?
Impossible. Impossible, mais ne serait-ce que donner la mort. À aucun moment, moi j'ai discuté le samedi 16, le jour de sa disparition, j'étais avec lui, et à aucun moment on l'a senti en danger de quoi que ce soit.
Une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte au tribunal de QC. La section de recherche de la gendarmerie de Clermont-Ferrand est chargée des investigations. Les dernières heures de la victime vont être décortiquées. Les gendarmes reconstituent la dernière journée de Christophe Douard. Ce samedi 16 décembre, il se lève vers 8h. Il prend un café dans un bar, puis un casse-croûte avec des amis chasseurs au Bayon. Il déjeune chez sa mère Françoise dans la maison du Vernet, une pizza au menu. Il fait une courte apparition chez lui. Son épouse, Maria, remarque son inquiétude à propos de sa chienne préférée, Flora, un griffon qui s'est volatilisé. Un animal de prix qui lui aurait été en fait subtilisé.
Un témoin a vu un homme embarquer la chienne de chasse à bord d'un véhicule 4x4. Christophe Doar va ressasser cette histoire jusqu'au soir. Il ne se rend pas avec son épouse au pot de Noël de son entreprise et décide d'aller regarder le match de foot chez son frère cadet, Olivier. Il ne mange rien et reste chez lui jusqu'à 23h30. L'autopsie montrera pourtant que son dernier repas était constitué de viande. On ne saura pas vraiment où il l'a consommé. Son épouse, Maria, explique n'avoir pas entendu rentrer son mari ce soir-là car elle dormait profondément. Le lendemain, il n'était plus à la maison. Elle a pensé qu'il était parti tôt à la chasse. Les affaires qu'il portait la veille ont été laissées en tas dans la soupente. Plus personne ne verra Christophe Doar. Sa voiture, une Renault 18, est aperçue le 17 au matin vers 7h15, porte verrouillée, sur le parking du Carrefour de l'Europe à QC. Les enquêteurs passent en revue les hypothèses, cherchent le ou les mobiles qui ont conduit à cette exécution. Ils s'intéressent ainsi naturellement à son couple, un couple qui part à volo. Maria a même songé à divorcer. Vu le mode opératoire du crime et l'attitude de l'épouse après la disparition, les gendarmes excluent catégoriquement cette piste. Peu à peu, les investigations se concentrent sur le milieu de la chasse. Christophe Doar, forte personnalité, grande gueule et parfois menaçant, ne faisait pas l'unanimité. Sa mère, présidente de la société de chasse du Vernet, l'avait même exclu pour son comportement. Christophe avait continué à traquer le gibier avec une autre société au Bayon, entouré d'hommes à la mauvaise réputation qui ne respectent pas les règles des chasseurs qui se disputent et se jalousent, fréquemment en conflit avec des propriétaires de parcelles. L'un de ces propriétaires qui avait menacé Christophe Doar sera entendu et ensuite mis hors de cause. Olivier Doar, vous êtes le frère de Christophe Doar et vous êtes avec nous ce soir dans l'heure du crime. Je le racontais très brièvement dans ce récit, vous êtes l'une des dernières personnes à avoir vu Christophe vivant. Racontez-nous, Olivier, comment est-il ce soir-là, ce 16 décembre au soir, votre frère ?
Il est un petit peu inquiet parce que il a rencontré ses amis la veille déjà, sa chienne a disparu. Mmh. Lui, il a prévu une partie de chasse le dimanche et il n'a pas sa chienne. Mmh. Il n'a pas sa chienne préférée qui est spécialiste du sanglier. Mais donc il a vu ses amis chasseurs au Vernet qui lui ont dit que sa chienne, et il l'avait aperçue avec son camarade de chasse, dans le 4x4 de son camarade de chasse.
Oui. Et donc ça le trouble un petit peu, il n'est pas à l'aise.
Ça le trouble un petit peu dans la mesure où on lui dit que c'est son camarade de chasse qui a sa chienne.
Bien sûr.
Lui, il a été le voir le samedi pour lui demander s'il avait la chienne. Son camarade lui dit « Non, moi j'ai pas la chienne, c'est faux, c'est une poubelle. » Et lui, il ressasse ça.
Oui,
ressasse
c'est ça.
Qu'il revoit, la personne qui lui a dit qu'il avait vu. Et il appelle son chien tout le samedi après-midi. Et le gars lui dit « Écoute Christophe, tu commences à nous emmerder, excuse-moi de l'expression, tu
Allez-y.
Commences à nous emmerder, t'arrêtes pas d'appeler ta chienne alors que je te dis que c'est ton ami qui a la chienne. »
Oui, c'est ça. Donc ça effectivement, il gamberge, comme on dit. Hein,
complètement.
Christophe,
complètement.
Et votre frère, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu le sang chaud, là, ça doit commencer à bouillir.
C'est un sanguin.
Voilà,
c'est un sanguin.
Ça doit commencer à bouillir en lui.
Là, ça monte parce que entre ce que son ami du Vernet lui dit et son camarade de chasse lui dit, c'est tout l'opposé.
Bien sûr, bien sûr.
Donc tout là, à fait. Là, il voit qu'il a été trahi.
Oui,
a été trahi là. Là, il est trahi. Il est chez moi. Il est soucieux. Il sent la trahison.
Oui. Un mot encore, Olivier Doar. Que pensez-vous? Ça m'a un peu troublé en lisant les documents d'enquête.
Oui.
Cette histoire d'autopsie. On sait que dans son corps, il avait ingéré de la viande.
Oui.
Personne ne l'a vu prendre ce repas. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense pas grand-chose parce que j'ai jamais eu un élément du dossier. Alors s'il avait de la viande, il y a rien qui l'empêche de rentrer chez lui en sortant de chez moi à 23h30. Il y a rien qui l'empêche de rentrer chez lui
et de manger,
de regarder ce qu'il y a dans le frigo, Il y a un petit bout de viande, il mange ce petit bout de viande comme ça à minuit, comme ça sur le pouce.
Oui, mais on le sait pas ça finalement parce que ça n'a pas été établi, donc ça fait partie des mystères de cette histoire. Maître Juliette Chapelle, vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime, vous êtes l'avocate d'Olivier Doar qu'on vient d'entendre, le frère de la victime. À ce stade de l'enquête, on peut dire que les mobiles ne manquent pas. Parce qu'on est dans un milieu quand même où ça se passe pas toujours bien.
On a plusieurs mobiles, il y a plusieurs pistes qui vont être suivies par les enquêteurs. Il y en a une en particulier, mais qui ne donnera rien. La personne sera mise hors de cause. Donc il y a deux solutions maintenant, 25 ans plus tard. C'est soit on n'a pas bien regardé les éléments qu'on a dans le dossier et la réponse se trouve dans le dossier, soit on a loupé une piste il y a 25 ans et il va falloir la trouver.
Alors parmi ces pistes, j'ai brièvement évoqué les contentieux avec des propriétaires terriens, ça peut arriver. Ça a été écarté, ça, on est d'accord?
Oui, ça, hein, ça a été écarté.
Alors, il y avait une autre piste aussi, c'était les gens du voyage. Parce qu'on dit que Christophe Douard, il ne s'entendait pas très bien avec les gens qui avaient des caravanes, les gens du voyage, et il aurait pu être victime.
Ça a été écarté également. Il y a une piste en particulier qui a été suivie par les enquêteurs, qui a donné lieu à un non-lieu par le juge d'instruction en 2007. Donc, ça a été écarté également. Maintenant, il va falloir retravailler tous ces éléments.
Olivier Douard, une petite question. Est-ce que votre frère, parlons franchement maintenant, est-ce que votre frère avait des ennemis déclarés?
Des ennemis déclarés, pas à ma connaissance. Mm. Pas à ma connaissance, parce que moi, il se confiait quand même pas mal à moi.
Bien
et
sûr.
Moi, il a jamais été en difficulté, ou il m'a jamais dit qu'il avait été en difficulté, sur quoi qu'il ait fait.
Un mois après la mort de Christophe Douard, ce dernier est inhumé dans le caveau familial. Des centaines de personnes assistent aux obsèques, beaucoup de chasseurs. L'un d'eux est toutefois absent. Il est désigné depuis le début par la famille comme l'auteur du crime. Dès les premières heures de l'enquête, le nom d'un compagnon de chasse de Christophe Douard, Dominique M., 43 ans, est revenu en boucle. C'est lui qui aurait volé les trois chiens de Christophe la veille de sa disparition, dont sa fameuse chienne, Flora. Dominique M. aurait voulu se venger et donner une leçon à Douard, qui lui faisait de l'ombre et claironnait qu'il allait s'acheter un 4x4. Les gendarmes pensent que ce différend a pu s'envenimer. Ils imaginent donc le scénario suivant. Très tôt, le dimanche 17 décembre, Christophe Douard aurait demandé des compte à Dominique M, lequel l'aurait tout simplement trucidé. Les enquêteurs estiment que Dominique M a menti en répétant à la famille du disparu qu'il n'avait pas volé ou emprunté les chiens. Françoise Douard, la mère de la victime, est persuadée que cette embrouille autour de la chienne Flora a provoqué la mort de son fils. Des vérifications sont menées par les gendarmes. 9 mois après le crime, 5 septembre 1996, Dominique M est interpellé sur un chantier et interrogé. Son épouse est également entendue. Une perquisition est menée à leur domicile. Dominique M finit par reconnaître le vol du chien, mais nie toute implication dans le meurtre. Les investigations sont au point mort. Le juge Laurent Gravat rend un non-lieu en mars 2000. 2 ans après le stop de l'enquête, celle-ci repart en mai 2002. Les sœurs de Dominique M l'accusent du meurtre de Christophe Douard. Il sait très bien où est la tête. Ils étaient deux, dit l'une d'entre elles. Dominique M est placé sur écoute. Il se montre inquiet, mais rien de confondant. Son ancien domicile, un relais de chasse, et sa voiture sont passés au Blue Star, procédé chimique permettant de repérer des traces de sang. Pas de résultat. Un radar géologique est utilisé pour explorer la propriété. 26 novembre 2002, les gendarmes extraient d'un puits un revolver, 7 cartouches, un petit burin, un briquet et un jouet. L'arme calibre 8 mm est là depuis 4 ans environ. Dominique M dit ne pas savoir à qui elle appartient, aucun ADN n'est retrouvé dessus. La tête du chasseur Christophe Douard reste, elle, introuvable. Maître Juliette Chapelle, avocate d'Olivier Douard, le frère de la victime, on a là un suspect désigné, Dominique M, parce que voilà, il est au cœur de cette affaire de vol de chien, si je puis dire. Donc tout de suite, on le montre du doigt.
Alors il va en effet être montré du doigt et attirer l'attention des enquêteurs parce qu'il ment sur le fait qu'il a bien volé les chiens et la chienne préférée de Christophe Douard. Et c'est ça qui va attirer l'attention parce qu'on se demande pourquoi il ment. Et ensuite, il y a évidemment un élément qui va relancer l'instruction qui était clôturée. C'est le fait que ses propres sœurs l'accusent et disent qu'elles, elles savent qu'il l'a dit. Et du coup, ça va de nouveau attirer l'attention sur lui. Mais de nouveau, on va l'écarter. Parce qu'on n'aura pas assez d'éléments pour le mettre en examen. Donc, il va y avoir de nouveau un non-lieu en 2007.
Alors, un simple chien pour expliquer cette déferlante de violence. Mais là, on est dans le milieu de la chasse, donc c'est un peu différent. J'ai envie de vous poser la question, Françoise Douard. Vous êtes la mère de Christophe Douard. Quelle particularité il avait, donc, cet animal?
c'était quelqu'un dans le domaine cinéphile, c'était quelqu'un d'extraordinaire. On la lâchait si elle revenait vers vous au bout de 10 minutes, vous pouviez remballer le fusil dans la voiture et tout, vous pouviez rentrer, il n'y avait pas de gibier. Tout au contraire, si elle avait une piste qui était sûre, vous étiez sûr de chasser. Une chienne tout à fait ordinaire, hein, un griffon tout à fait ordinaire. C'était pas un premier prix de beauté en plus, mais c'était une chienne active et qui savait chasser. Voilà, c'est tout.
Alors, une bonne chienne de chasse, ça, on est d'accord, mais alors, au point d'attirer autant de convoitises ?
Elle était très, très enviée et très, très jalousée. Parce qu'on savait très bien que si Christophe sortait avec ses deux chiennes, automatiquement, il y aurait une chasse. C'est un chien comme on n'en a qu'un dans une vie de chasseur, c'est tout.
Et alors, selon vous, Madame Douard, expliquez-nous, parce que Christophe a voulu récupérer ce chien, et c'est ce qui aurait provoqué sa faim, c'est ça que vous avez dit finalement aux gendarmes ?
Christophe est allé chez lui, Christophe a été faire le cirque pour son chien. Je ne vais pas vous dire qu'il a dû essayer de faire du chantage, qui est très probable. Et ça a dégénéré, un coup de fusil est certainement parti, et la tête de Christophe a été plus ou moins enlevé pour la bonne et simple raison que n'importe quelle arme qui porte n'importe quel calibre de balle, on le retrouve. Voilà pourquoi Christophe a été décapité, tout simplement.
Olivier Douard, vous êtes le frère de Christophe Douard.
Oui.
Dominique M, évidemment on ne donne pas son nom, hein, on est d'accord. Le suspect numéro 1, vous le connaissez ? Quel est ce genre d'homme ? Qui est-il ?
C'est un grand gaillard bien costaud. C'est un grand gaillard bien costaud qui est fort en gueule aussi et qui est au demeurant c'est plutôt sympathique. Vous voyez, on avait des bonnes affinités. Avant ce drame, on avait des très bonnes affinités.
Et votre frère, vous en parlez de ce bonhomme avec qui il chassait ?
Oui, bien sûr, c'était son compagnon de chasse. Mais Dominique, il n'avait pas de chien. Il voulait pratiquer de la chasse aux sangliers, mais il n'avait pas de chien. Et mon frère avait des chiens exceptionnels. Mon frère avait des chiens exceptionnels. Il était même demandé sur les autres sociétés pour confirmer la présence de sangliers, par exemple.
Et Olivier, il n'y avait pas eu de bagarre entre votre frère et cet homme ?
Jamais.
Jusque-là, jamais ?
Jamais. Hein ? Non, jamais.
Février 2007, 12 ans après le meurtre, la deuxième juge d'instruction en charge de l'affaire, Marie-Laure Goliard, rend une nouvelle ordonnance de non-lieu. Les investigations aboutissent à une impasse, même si le dossier n'est pas formellement refermé. Dominique M. demeure toujours pour la famille de Christophe Douard le principal suspect. En 2003, cet entrepreneur en bâtiment affirmait au journal Le Parisien très mal vivre cette situation. « Voilà 7 ans que je suis en garde à vue, ça devient pesant, mon gamin se demande chaque soir si je vais rentrer à la maison », disait-il. Son avocat, maître Gilles Jean Portejoie, renchérissait. « Mes clients, monsieur et madame M., font l'objet d'un véritable harcèlement, c'est une situation intolérable, la justice doit savoir prendre ses responsabilités ». Dans un sens comme dans l'autre, Dominique M. a toujours affirmé qu'aucun litige ne l'opposait à Christophe Douard. Les gendarmes, dit-il, auraient fait pression pour qu'il avoue. Ils l'auraient attaché à un radiateur et giflé une bonne centaine de fois. Dominique M. n'a jamais été mis en examen dans cette affaire. En 2019, le parquet de QC avait ressorti le dossier Christophe Douard afin de procéder à un réexamen de certaines pièces. L'utilisation de nouvelles techniques de recherche, notamment l'ADN, pouvait alors être envisagée. À l'époque, le procureur Éric Neveu assurait au journal La Montagne que tant que le dossier n'était pas prescrit, soit en 2037, cette cause n'était pas perdue. Olivier Douard, frère de la victime, ne cachait pas, lui, sa circonspection en disant « L'enquête a été menée avec de petits moyens ». Et nous avons obtenu de tout petits résultats. Maître Juliette Chapelle, ce soir dans le studio de l'heure du crime et avocate d'Olivier Douard, est-ce que tout a été fait dans cette histoire, côté justice, hein, côté enquête ?
La difficulté que j'ai pour vous répondre, c'est que à ce jour, nous n'avons toujours pas accès au dossier.
Comment ça ?
Donc moi, j'ai été désignée en fin 2019 par Monsieur Douard pour reprendre le dossier. Mes confrères n'avaient pas gardé de copie et n'ont pas communiqué de copie au moment de la clôture du dossier à leurs clients. Et à ce jour, le procureur de la République refuse à ce qu'on ait accès au dossier à minima à ce qui s'est passé jusqu'en 2007.
Pourtant, vous êtes officiellement partie civile. Vous devriez avoir accès à ce dossier.
Mais je suis un peu démunie parce que je n'ai que copie des ordonnances de non-lieu et d'un PV de synthèse. Donc, on espère avoir accès très rapidement à ce dossier parce que moi, j'ai un rôle à jouer auprès de mes clients qui est un de l'informer de ce qui s'est passé dans la procédure, parce qu'aujourd'hui, il nous le dit. Il dit, moi, j'ai pas eu accès au dossier, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas exactement...
Il nous l'a dit, Olivier Doir. Hein.
Qui a dit quoi. Donc, c'est compliqué pour lui, et c'est compliqué pour la justice aussi, de se dire qu'on a une partie civile qui n'a pas eu accès au dossier, qui n'a pas pu étudier le dossier avec ses avocats. Et ensuite, nous, on a aussi un rôle en tant qu'avocat de partie civile. On peut faire des demandes d'actes. Donc, on a aussi un rôle à jouer
sur l'enquête.
On peut participer à l'enquête. Donc, pour l'instant, je comprends que c'est une équipe d'enquêteurs spécialisés qui est sur le dossier. On espère que ça a porté ses fruits rapidement. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir accès au dossier pour qu'on puisse l'étudier aussi, regarder ce qui a été fait et est-ce qu'il y a des failles, est-ce qu'il y a des pistes qui n'ont pas été chercher, est-ce qu'il y a, des contradictions qui n'ont pas été mises en évidence, et pour l'instant, on est complètement démunis.
Ce que vous dites finalement ce soir au procureur, qui peut-être nous entend, je ne sais pas, mais c'est que vous avez...
C'est que nous voulons
vous avez
avoir...
envie de participer aussi.
Avoir une copie de ce dossier pour informer Monsieur Doir et étudier le dossier, faire notre travail d'avocat.
Bien sûr, et donc, parce qu'effectivement, il s'agit d'une question très importante. Hein. Il y a eu une mort d'homme, il y a une famille qui attend depuis toutes ces années la vérité et qui ne l'a toujours pas,
hein,
malgré les suspicions et malgré une enquête d'ailleurs de gendarmerie qui a été menée dans le détail, il faut bien le dire, dès le début hein, par la section de recherche de Clermont-Ferrand qui a fait beaucoup de travail sur cette affaire. Justement, Olivier Doir, je citais ce que vous disiez il y a quelques années, l'enquête a été menée avec de petits moyens et nous avons obtenu de tout petits résultats. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ou bien vous avez à nouveau de l'espoir?
Non, mon opinion n'a pas du tout changé. Mon opinion n'a pas du tout changé. Je ne peux même pas dialoguer correctement de cette histoire, puisque moi, je n'ai jamais touché une pièce du dossier. Je n'ai jamais rencontré ne serait-ce qu'un seul juge et un seul procureur. Moi, jamais. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Je suis parti civil depuis 25 ans et je n'ai jamais rencontré... quelqu'un du parquet.
Mais alors le parquet c'est autre chose, mais les juges ont dû entendre votre mère, je suppose, ont dû...
elle était reçue par les deux juges,
elle a été reçue, oui. Mais vous n'avez jamais été reçue...
Qui vous dit que ma mère communique avec moi?
Ah oui, non, mais ça c'est autre chose, ça je vous laisse...
Le juge il doit quand même rencontrer...
Bien sûr, mais il y a des avocats pour ça, pour faire la liaison, mais les avocats n'ont pas le dossier, hein. C'est ce que vient nous dire Maître Juliette Chapelle. Selon vous, Maître Chapelle, est-ce que le dossier peut repartir en l'état? Il bouge encore, si je puis dire, malgré les années?
Alors j'espère qu'il bouge encore. J'imagine que si le procureur de la République a réouvert une enquête, saisi un nouveau service d'enquête et étudie quand même depuis 2019 les 7 à 8 cartons de dossiers de procédure, c'est parce qu'il espère trouver quelque chose et j'espère que ce quelque chose, il l'a trouvé.
Françoise Doir, la maman de Christophe Doir, vous avez vous aussi de l'espoir que ça aboutisse?
Moi, je vais vous dire, j'espère, je ne suis pas croyante, hein, mais j'espère qu'un jour, quelqu'un réussira à parler. Je ne voudrais pas être une des dernières à partir avec ce point d'interrogation. Et j'espère qu'il y aura une conclusion. Voilà.
Merci beaucoup Françoise Doir, Olivier Doir et Maître Juliette Chapelle d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'énigme du chasseur sans tête, un cold case qui, sait-on jamais, se déliera un jour à la faveur d'un détail ou d'un témoignage. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.